Tourangelle, Tourangeau, vous écoutez Radio Campus Tours, bienvenue sur Littératour, l'émission qui vous fait découvrir les librairies indépendantes de notre belle ville ligérienne. Venez avec moi et osez pousser les portes de ces univers merveilleux. Petit erratum, chers auditeurs, cette interview a été tournée avant la période du confinement. Aujourd'hui, nous sommes dans la librairie ancienne de Nîmes, où Monsieur Duchemin nous accueille très gentiment. Bonjour Monsieur.
Bonjour Audrey.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est la librairie ancienne de Nîmes ?
Donc c'est une librairie qui a été créée en 1925 par Léon Denis, donc qui était né en 1885 et décédé en 1963, puis qui a été reprise en 1963 par sa fille Marie-Thérèse Denis, bien connue de nombreux Tourangeaux puisqu'elle a été professeure dans différents collèges et lycées de la ville pendant une quarantaine d'années. Et enfin, cette dernière m'a vendu en 2008 donc cette librairie ancienne et j'y venais depuis l'âge de 11 ans puisque ma famille était très proche de Mlle Denis et j'ai notamment deux grands-oncles dès les années 25-30 qui venaient presque un tous les jours et d'autres toutes les semaines pour voir les nouveautés auprès de Monsieur Denis.
Quelle est la spécialité de votre établissement ?
Alors, à l'origine, Monsieur Denis, Mademoiselle Denis ont surtout fait de la littérature et de l'histoire, puisque c'est un petit peu les deux domaines les plus demandés. En parallèle, bien sûr, il y avait du régionalisme, des voyages, un petit peu de science. Maintenant, comme on est en province, il faut être un petit peu généraliste. J'ai redéveloppé aussi la vente des livres d'heures et des incunables. Alors les incunables, pour les gens qui ne savent pas, donc ça vient du latin incunabila qui veut dire berceau. Donc ce sont tous les livres qui ont été édités avant 1500 ou 1501 pour la France. Et donc j'en ai quelquefois, ainsi que quelques livres d'heures, comme faisait Monsieur Denis. Bon, la tradition avait été un petit peu perdue, parce que Mademoiselle Denis, qui était professeure de lettres classiques, avait beaucoup développé la littérature et l'histoire. Et vraiment, elle s'intéressait, évidemment, aux reliures et à l'aspect extérieur, mais surtout au contenu du livre. Elle avait énormément d'élèves, d'anciens élèves qui venaient, et elle aimait bien présenter des aspects différents, quelquefois orientés.
Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette librairie ?
Alors, cette librairie a été créée en 1925 par Léon Denis, donc, qui était le beau-frère d'un libraire très connu à Tours au début du siècle, donc, qui s'appelait Théophile Tridon, et qui était 49 rue Nationale. Donc, il avait repris cette librairie en 1908, qui était une librairie de neuf, et donc, c'était son beau-frère. Et cette librairie est devenue célèbre dans les années 10-20-30, puisque Anatole France, qui est arrivé à Saint-Cyr en 1915, un petit peu éloigné parce qu'il était pacifiste par le gouvernement, est vite descendu parce que c'était un très grand auteur qui était adulé à l'époque. On l'appelait maître et il avait besoin de venir tous les jours. Il descendait de Saint-Cyr avec une très belle voiture et il s'installait dans la librairie Tridon. Il y avait un salon spécial. D'ailleurs, j'ai son fauteuil qui est arrivé par héritage. Après, vous avez eu Courteline, vous avez eu Bergson, vous avez eu Boislev. Enfin, énormément d'écrivains venaient à la librairie Tridon qui était très connue. Mais donc, Léon Denis était employé et un jour, sa fille m'a raconté qu'Anatole France lui aurait dit, il était un petit peu gonflé entre guillemets, Denis, il faut faire du livre ancien parce que le livre moderne, c'est de l'épicerie. Alors que lui était un auteur de son époque moderne très, très, encore une fois, adulte. Donc Léon Denis, grâce, je crois, à quelques clients amis, a mis quelques boîtes dehors de mémoire rue Nationale pour montrer qu'il avait des livres anciens. Puis après, a créé sa propre librairie en 1925, rue du Président Merville, donc de l'autre côté de la rue Nationale. Et puis en 1933, au 50 rue de la Sellerie, qui était déjà une rue où on trouvait beaucoup d'antiquaires, de collectionneurs. Mais il y avait aussi même une tradition de libraires anciens, d'imprimeurs. Et il a vite été connu en faisant du livre ancien et moderne. Et puis après, ancien, il faisait un catalogue tous les 15 jours, des ventes aux enchères. Et quand on regarde les catalogues de ventes juste après la guerre, il fait partie des 6 ou 7 plus grands experts qui sont cités en Europe comme libraire. Il était extrêmement consciencieux. Et encore une fois, il avait la passion du livre que lui avait inculqué Anatole France.
Et on a eu une histoire avec la boîte à livres qui nous a raconté que pendant la guerre, vu que le centre-ville était détruit, ils ont dû monter une boîte à livres. Est-ce que vous savez si la famille Denis a connu ces mêmes problèmes ?
Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1940, le pont a été bombardé, mais surtout, la bibliothèque, il y a eu des bombes incendiaires, alors que le conservateur avait demandé depuis des mois et des mois qu'on emporte tous les livres dans un château ou dans des souterrains, puisqu'en 1870, déjà pendant l'autre guerre, il y avait eu des bombes qui étaient tombées dessus. On ne lui a pas répondu, il a pu en emporter chez lui et en mettre dans une chambre forte, je crois, un abri sous la bibliothèque, ce qui a sauvé les très beaux livres qu'on voit encore, comme l'Évangéliaire de Charlemagne, qui ont pu être conservés. Tout le reste, je crois que 300 000 volumes ont brûlé. Parce qu'en fait, donc, tout le quartier, ça a pris feu. Et comme le pont était coupé, l'arrivée de l'eau par la canalisation n'était impossible. Donc, tout a brûlé pendant plusieurs jours. Et beaucoup d'auteurs, beaucoup de gens racontent qu'on, quand il y avait du vent, on retrouvait des livres ou des feuilles de livres brûlées jusqu'à Villandry, jusqu'à Savonnières, etc. Ma propre grand-mère, 3 mois après l'incendie, a vu remonter des livres, des caves qui se consumaient encore. Ça a été épouvantable. Donc, c'est vrai que toute l'artère commerçante a brûlé. Donc, les commerçants se sont installés jusqu'aux années 1950-55 sur les boulevards. avec des petites cahutes, avec des boîtes, effectivement, donc pourraient montrer qu'ils existaient encore avec des moyens très limités. Et ils sont revenus dans les années 55-60. Ici, on n'a pas eu la bibliothèque n'a pas brûlé, mais en 44, 4 ans plus tard, ma propre mère qui est née en face, sa maison a été bombardée et ici, on était juste en face. Toute la vitrine de l'Adventure a été pulvérisée. Donc, il a fallu un petit peu évacuer, mais la maison n'a pas été touchée elle-même. Donc, on n'a eu que cela à déplorer. Donc, ça a été réparé au bout de quelques mois. Et voilà, donc nous, la librairie existe ici depuis 1933 et depuis 1925. Rue du Président Merville.
Suite à cette fascinante page d'histoire, mes questions se sont orientées sur des aspects plus techniques de la librairie. Et combien on peut trouver à peu près de références dans votre établissement aujourd'hui ?
Alors, sur notre site internet, on en a à peu près 4000. Si je compte tous les livres, c'est-à-dire des livres de régionalisme, des livres secondaires ou des petits livres, j'en ai à peu près 40 000. Mais c'est relativement peu par rapport aux 6 ou 7 millions de livres qui sont parus, qu'on peut trouver à la Bibliothèque nationale. Il faut rester modeste.
Comment vous trouvez ces petites pépites rares ?
Alors, vous avez plusieurs moyens. Déjà, comme la librairie a 100 ans, on a par exemple des cycles. J'ai beaucoup d'enfants, de petits-enfants, de collectionneurs bibliophiles qui ont acheté des livres et qui viennent me les revendre quand leurs parents décèdent ou quand ils déménagent. On a beaucoup aussi de gens qui déménagent, qui doivent aller en maison de retraite. On a aussi des successions, donc quand les gens décèdent, les enfants viennent nous vendre. J'achète aussi en salle des ventes, parce que maintenant c'est très facile avec Internet. On peut avoir des alertes et trouver les livres pour des clients. Ce sont les principaux moyens d'acquisition. Et encore une fois, la perle rare devient plus difficile à trouver, puisque maintenant beaucoup de gens utilisent la salle des ventes.
Pour vous, un livre ancien, c'est quelle date ?
Je vous dirais que jusqu'à maintenant, quand on disait ancien, que ce soit en mobilier ou en livre, on disait avant la Révolution. Alors après, il y avait le livre ancien, après vous aviez le livre 19e et le livre moderne qui était du 20e. Maintenant, avec la tendance un petit peu anglo-saxonne, enfin je veux dire, on va dire qu'un livre ancien, il peut être avant 1900, au 19e siècle, après il y a le livre 20e et moderne. Il y a le livre ancien et très ancien, parce que je vous parlais des incunables et des livres d'heures. Ensuite, vous avez les post-incunables, entre guillemets, jusqu'aux années 1530. Les livres 16e, qui sont peu courants. Et après, vous avez beaucoup de livres 17-18e, beaucoup plus qu'on le croit, notamment en littérature, en histoire, en philosophie, en religion. Je m'amuse souvent, quand je vois des inventaires anciens, à regarder comment ils sont détaillés, et même avant la Révolution, on met les livres les plus récents, c'est-à-dire l'encyclopédie, des livres de sciences ou de philosophie, et on met après environ 100 volumes religieux, 50 volumes de littérature. Donc, on est souvent un petit peu étonné de voir qu'on peut acquérir un livre du 16e siècle à 80 euros, par exemple. On peut acquérir des livres du 18e à 50 euros, 17e.
Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'est un livre d'heures ?
Alors, un livre d'heures, c'est un livre qui contient les heures de l'Église. On le trouve chez les moines, mais les laïcs, au Moyen-Âge, au début de la Renaissance, le lisaient. Ce sont les 7 prières de la journée, qui sont les heures, orae en latin. Donc, ça commence par matine et ça finit par les complis. Alors les moines se réunissent 7 fois par jour, mais les laïcs le lisaient, et donc c'était des très beaux livres, souvent qui étaient offerts en cadeau de mariage, et comme les femmes se mariaient à l'époque à 15 ans, on les commandait notamment à des monastères ou des grands artistes dès leur naissance quasiment, parce qu'il y avait beaucoup d'attentes, et ce sont ces livres magnifiques qu'on trouve enluminés, donc calligraphiés, et avec des petites scènes représentant des scènes de la Bible, notamment l'Ancien et le Nouveau Testament, ou de la vie des saints.
Comment a évolué la librairie ancienne ?
Alors, la librairie ancienne, je dois vous dire que pendant des siècles, on va dire jusqu'à la Révolution, c'était quand même le fait de gens fortunés, parce que le livre coûtait très cher, qui recherchaient toujours à avoir tous les livres parus, qui les habillaient de très belles reliures. Au 19e siècle, ça s'est un petit peu vulgarisé, on a eu des grands collectionneurs, et puis le livre avec les procédés d'industrialisation ont coûté moins cher. Donc là, on s'est réfugié sur des grands papiers pour les collectionneurs. Donc au 19-20e siècle, ce qui a fait beaucoup la différence, c'est les grands papiers et les très belles reliures. Après, on a eu des très beaux livres d'artistes, hein, jusqu'à l'heure actuelle. Maintenant, je pense que depuis les années 60, 70 et 90, la bibliophilie quand même tente à se restreindre beaucoup, parce qu'il faut des moyens importants même pour relier. Donc en fait, je dois dire que c'est vrai qu'on a affaire à un peu, dans le monde des bibliophilies, à quelques grands collectionneurs et des gens qui doivent se restreindre à des livres accessibles, puisque ça coûte très très cher. Dès que vous avez un très beau livre, il peut facilement atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, j'ai eu avant moi 2 générations. Moi, j'ai connu même le début de mon activité où Internet n'existait pas, enfin, où on était très peu utilisé, on va dire jusqu'aux années 2005-2010. C'est-à-dire qu'en fait, on communiquait par catalogue ou par téléphone, et où les gens nous téléphonaient, où on prenait beaucoup d'adresses, on les rappelait, etc. Puis on avait une grosse clientèle de passage, de touristes, d'étrangers, de vacanciers et de tourangeaux, bien sûr. Depuis qu'on vend beaucoup sur Internet, on a développé un site qu'on a ouvert dès 2008. Et puis, on travaille avec différents sites de vente pour des livres courants ou moyens. J'ai développé aussi ce qui ne se faisait pas, la présence au salon, notamment le plus grand salon du livre en France, donc au Grand Palais à Paris, qui est un des 3 ou 4 salons les plus connus au monde, où ça me permet de rencontrer des clients étrangers et importants que je n'aurais pas à Tours. En gros, autrefois, les gens venaient vers nous, maintenant, il faut aller vers eux. Donc moi, ce que je me dis maintenant, c'est que c'est bien qu'on continue aussi bien à lire pour le texte lui-même, qu'on conserve, même que ce soit sur une tablette ou sur une liseuse, qu'on passe Victor Hugo, Balzac, Zola, qu'on garde tous ces grands auteurs. Mais je pense qu'il restera toujours quelques grands collectionneurs, même si on peut se dire que quelquefois, c'est peut-être plus pour la valeur, pour la rareté, pour la reliure ou pour la gravure que pour le livre lui-même. Et de toute façon, je pense que le livre n'est pas mort puisque vous avez la rentrée littéraire dans le livre moderne qui n'est pas mon rayon. Il y a 5 ou 600 livres qui paraissent. Donc même s'il n'en restera pas beaucoup dans 10 ou 20 ans, il y a encore de l'impression et de l'édition pour quelques décennies, je pense.
Quels seraient vos projets futurs et rêvés pour cette librairie ?
Oui, mon idée, ça serait de développer la présence de la librairie sur les réseaux sociaux, les médias sociaux. Lorsque je rentre une pièce intéressante, où les gens aiment bien, même à travers des blogs, parler d'un éditeur, d'un auteur, d'une sorte de livre, de la reliure, etc. Je pense qu'il faut vraiment aller maintenant vers les gens, puisque les gens n'ont plus le temps de venir chez nous et ils commandent beaucoup. On en voit depuis Noël, on a essayé notamment à cause des grèves, à cause de tout ce qui s'est passé depuis 2 ans, de développer la vente par Internet. Et c'est vrai qu'à Noël, on envoyait 5 à 6 paquets par jour, ce qui a permis de contrebalancer la perte des gens qui ne sont pas venus à cause des grèves. Donc, comme autre projet plus terre-à-terre, la librairie donc, a un style, mais elle n'a pas beaucoup changé depuis 90 ans. Il faudrait faire une restauration en allégeant certainement certaines structures, en remettant des matériaux nobles, entre guillemets, comme le bois, qui ont un petit peu disparu sous des couches de moquettes ou de plâtre ou de papier, et de faire peut-être quelque chose de plus aéré pour qu'on voit mieux les pièces importantes. J'ai un peu ce projet d'aérer et d'agrandir et de rendre plus attrayant et peut-être plus moderne, entre guillemets, pour la communication, la librairie, puisque si elle a 100 ans, elle a réussi à survivre à plusieurs époques. Mais c'est vrai que nous, on est à un tournant qui est certainement aussi important que l'arrivée de l'imprimerie au XVIe siècle. Moi, je me dis maintenant, il faut vraiment sauver les textes en priorité, les auteurs. Après, le support qui est le livre, en présentant des livres un peu uniques, soit avec des envois, soit des beaux papiers, soit des provenances, voilà.
Est-ce que dans votre fonds, on trouve que des livres en français ?
99%, je vous dirais oui, parce que ce sont des livres que j'achète dans la région ou en France. On me demande quelquefois des livres en anglais. Vraiment, ma spécialité, c'est français, latin, grec. Puisque j'ai un collègue, je n'ai pas encore parlé, donc depuis 2008, quand j'ai racheté la librairie, j'ai comme collègue quelqu'un de beaucoup plus fort que moi, puisqu'il est normalien, il faut le dire, et qui maîtrise le grec, le latin et même d'autres langues. Voilà, donc ça m'aide bien. Moi, je me rabats plutôt sur l'histoire et la littérature, et lui, très, très fort en grec, latin et langue, même espagnole, avec son entourage russe, allemand, etc. Donc c'est bien pratique.
Comme vous venez de l'entendre, Monsieur Duchemin n'est pas seul dans cette librairie. En effet, deux hommes travaillent de concert pour collecter et vendre ces ouvrages anciens. Nous allons découvrir comment se sont liés leurs parcours. Mais avant ça, je vous propose une petite pause musicale avec le groupe tourangeau Nogus et leur chanson Old Time.
Thank you. I'm on the scene. Feel like I'm another man tonight. I lose all my stress and all my prejudices, yeah. I feel like I wanna see like everybody think I'm dance tonight. Don't worry if you're shy. I realize we can do anything, but down the limits, baby, I know it's gonna be great. We have a chance, we can do it different. I know it's happening, way you just have to let you go. All the time, all right. All the time, all right. All the time, all right. I know it's gonna be great. All the time, all right. All the time, all right.
Bonjour Monsieur Bretel.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours pour arriver à travailler dans cette librairie, s'il vous plaît ?
Avant d'être dans la librairie Ancienne-Denis, j'étais donc professeur de lettres, français, latin, grec, dans des différents établissements, publics, privés, collèges, lycées. Et je souhaitais quand même me réorienter parce que c'est vrai que j'avais des difficultés dans le domaine de la maîtrise de la discipline avec les élèves qui sont parfois très très agités. Et dans certaines classes, c'était compliqué. Au bout d'un certain temps, donc j'ai changé de profession et il se trouve que par un ami commun, j'ai eu connaissance de Pierre Duchemin, surtout du fait qu'il avait besoin de quelqu'un pour les livres qui étaient notamment en latin et en grec. Il y a pas mal de livres en latin qui étaient le sujet favori de l'ancienne libraire ici, Mademoiselle Marie-Thérèse Denis. Et donc Monsieur Duchemin a bien voulu faire appel à moi à partir de 2008 lorsqu'il a repris la librairie Ancienne Denis. Et c'est avec plaisir que j'ai pris ce métier car c'était évidemment pour moi à la fois rester dans le domaine qui m'intéressait, la culture, les livres, la lecture, qui a toujours été un petit peu toute ma vie aussi, hein, et dans un domaine très très pluridisciplinaire, ce qui me plaît beaucoup. Et puis j'ai bien aimé ensuite le travail déjà concret de découvrir les livres, en faire des descriptions, des notices, qui me permettent de découvrir aussi beaucoup de choses. Hein. Depuis que je suis à la librairie, je crois que ça m'a beaucoup recultivé en quelque sorte, parce que j'ai pu avoir beaucoup plus d'opportunités de lire, et également travailler sur l'image, ce qui est quelque chose de nouveau pour moi, et dont j'ai découvert aussi des aspects que je n'avais jamais vus jusque-là, le travail d'informatique, faire des catalogues comme ça sur l'écran et tout, c'est ce qui me plaît aussi.
Vous avez décrit avec justesse ce qu'il vous plaît. Est-ce que vous auriez une contrainte en tête concernant ce métier ?
Non, il n'y a pas de grande contrainte en soi. Hein. Je pense que non, tout est intéressant. L'accueil des clients aussi, c'est très intéressant. Hein, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr, on peut apprendre des choses. Évidemment, il y a des petites contraintes dans le sens que c'est un peu plus sédentaire, mais il faut aussi avoir les bons yeux parce que c'est quand même un travail, pour moi personnellement, un travail sur les écrans, pas 4, 5, 6 heures par jour, ça dépend. Si vous voulez, c'est un petit peu usant pour les yeux.
Vous étiez donc prof de latin et de grec ancien. Est-ce que vous parlez d'autres langues ?
Oui, l'anglais. Les autres langues, j'en ai juste quelques petites notions. Hein. L'allemand, par exemple, c'est juste des notions. L'italien aussi. Je ne parle pas l'espagnol, personnellement. Mais alors, effectivement, j'ai la chance d'avoir une épouse qui, elle, maîtrise encore mieux l'anglais que moi, beaucoup mieux même, et surtout parfaitement le russe. Hein, c'est ce qui est très intéressant. Et l'espagnol aussi, hein, de toute façon. Vous voyez, donc ça permet d'avoir, effectivement, pour les livres, c'est intéressant.
Et vous, Monsieur Duchemin, est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeuristes qui ont une passion pour les livres anciens un avantage et une contrainte d'être libraire dans ce genre d'établissement ?
Alors l'avantage, c'est qu'on voit énormément de gens, à 99% très sympathiques, très érudits. Et quand ce sont des collectionneurs ou des bibliophiles qui connaissent très bien une petite partie de l'histoire de la bibliophilie, c'est-à-dire qu'ils collectionnent un éditeur, un auteur, un graveur, on apprend énormément. Et c'est magnifique tous les jours, comme disait Monsieur Denis jusqu'à sa mort. Jusqu'à ma mort, j'ai appris quelque chose tous les jours. Voilà, donc c'est le contact avec les clients et puis aussi l'excitation quelquefois de voir qu'on nous apporte. Ça m'est arrivé 2-3 fois en 10 ans, des choses extraordinaires que les gens connaissaient plus ou moins, mais on se dit voilà, il a traversé les siècles, les révolutions, les bombardements, il arrive là et c'est un livre unique. Le petit côté, je vous dirais, un peu négatif, ça serait que, bon, il faut bien vivre. économiquement, donc on a quand même pas mal de charges. C'est très irrégulier, les rentrées sont pas toujours étales. Et puis, un petit détail qui peut être un peu fastidieux, mais tout le monde, tous les libraires le connaissent, c'est la collation. C'est-à-dire qu'il faut compter toutes les pages, les gravures. On doit donner un livre complet ou signaler s'il manque des pages. On a une garantie en tant qu'expert décennale. Ça veut dire que s'il n'est pas complet, on peut vous le rendre. Et en plus, la valeur peut perdre 50 à 80% s'il manque des pages. Donc, il faut bien vérifier la collation du livre. C'est important.
Vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours pour reprendre cette librairie?
Alors, le parcours, en fait, vous n'avez pas vraiment de diplôme pour être libraire ancien. Je pense que ce qui se rapproche le plus, ça sera un diplôme bibliothécaire. Bon, vous avez la culture générale et puis l'intérêt. Ensuite, moi, j'ai toujours lu beaucoup de catalogues, beaucoup de recensions de livres et puis aussi beaucoup l'histoire du livre et de la littérature. Ensuite, j'ai fait une licence d'histoire, mais que je n'ai pas terminée, parce que j'étais un peu pressé de continuer la vie. J'ai travaillé un petit peu dans la finance et après dans l'édition, mais ça ne me plaisait qu'à moitié. Et à l'époque, j'étais à Paris et je suis revenu en Touraine, où je venais de temps en temps voir Mademoiselle Denis. Et elle m'a dit un jour, mais pourquoi est-ce qu'on ne travaillerait pas ensemble? Elle avait à l'époque à peu près 75 ans de mémoire. Elle m'a fait comprendre qu'elle aimerait bien que je reprenne. Donc, j'ai un petit peu hésité parce qu'elle avait un caractère très fort, comme tout le monde le sait. Puis finalement, ça s'est bien goupillé, entre guillemets, et je suis rentré comme employé ici en 1998. Et pendant 2 ou 3 ans, donc, j'ai appris avec elle. Je faisais beaucoup de ventes aux enchères, j'achetais beaucoup pour elle parce qu'elle ne conduisait pas. Et au bout d'un moment, j'ai bien vu qu'elle voulait encore rester assez longtemps et on avait des caractères un petit peu différents. Donc, j'ai eu une opportunité. Maître Jabot, le commissaire-priseur rue Giraudot, comme j'allais tout le temps à la salle des ventes parce que j'étais passionné aussi par les ventes aux enchères, m'a demandé d'être son expert. Donc, avec l'autorisation de Mademoiselle Denis, je suis devenu expert à l'hôtel des ventes et en même temps son employé pour lui laisser le temps de rester autant qu'elle voudrait. Et donc, ça s'est fait en 2007-2008. J'ai racheté la librairie et Mademoiselle Denis a continué à venir jusqu'à sa mort toutes les semaines. On déjeunait ensemble, elle venait parce que c'était vraiment son univers et elle est décédée en 2012.
Quel est le livre qu'on vous a fait estimer qui vous a le plus marqué?
Eh bien, j'y pensais tout à l'heure. Je dois vous dire, j'ai un monsieur qui est très, très aimable, qui est arrivé un jour en me montrant un petit livre qui, de loin, avait une belle reliure puisqu'il était en maroquin rouge. Le maroquin, c'était et c'est toujours la reliure la plus recherchée puisque c'est un cuir très fin qui est une chèvre du Cap au Maroc à l'origine, qui était réservée au roi, aux grandes de la cour, etc. Donc, j'ai vu ce livre, j'ai pensé à un beau maroquin. Et en fait, en l'ouvrant, c'était un livre d'heures de la fin du 15e siècle. Et ce monsieur m'a dit, c'était au milieu des missels de ma grand-mère. Alors, j'ai vu, il y avait à peu près de mémoire une soixantaine de miniatures. C'est-à-dire que important pour un livre d'heures, c'est que vous avez des miniatures à pleine page, pas seulement des lettres enluminées ou des petits bandeaux. Et alors là, j'ai été stupéfait parce que je ne pensais pas qu'on pouvait encore, à notre époque, trouver des choses aussi belles. Donc, j'ai fait une étude très poussée. Ce monsieur l'a montré à d'autres experts parisiens de grandes maisons de vente aux enchères et j'ai pu l'acquérir et j'ai été très content puisque notamment il y avait des petits rappels de la région avec des très jolis fonds de paysages bleutés où on apercevait des villes comme Chinon, Loche, enfin des villes du Val-de-Loire.
Monsieur Bretel, cela fait des années que vous travaillez dans cette librairie. Auriez-vous une anecdote à nous raconter?
Ce qui m'a frappé, c'est le jour où est venue une dame que nous ne connaissions pas, c'est Marie-Françoise Sacré, qui est un écrivain, et qui préparait un roman, et sans en avoir l'air comme ça, elle nous a parlé. Elle a regardé la librairie un peu partout, et elle a ensuite fait un roman qui s'appelle 316, L'ultime secret, qui se rapporte à Saint-Martin et à la redécouverte de son manteau. En fait, dans ce roman, elle introduit un chapitre entier sur la recherche de vieux grimoires et de secrets dans la librairie ancienne Denis, dont elle fait une description et elle parle en particulier de nous deux, Pierre Duchemin et moi, sous des noms, bien sûr, d'emprunt, des noms de romans. Donc, je suis appelé Antonin dans le livre et elle nous décrit physiquement et puis aussi donc dans nos relations. Et c'était tout à fait intéressant et amusant de se voir dans le livre.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'adresse et les horaires de votre librairie, s'il vous plaît?
Donc, nous sommes situés au centre-ville de Tours, donc entre le théâtre et le musée, 50 rue de la Sellerie. Nous sommes ouverts du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h45 à 18h. Et bien sûr, sur rendez-vous, si on a des étrangers ou des gens qui ne sont pas dans les horaires, il n'y a aucun problème, on peut les recevoir.
Merci beaucoup, Monsieur Duchemin, de nous avoir accueillis. J'espère avoir attisé votre curiosité et que lors de vos flâneries jusqu'aux Beaux-Arts, vos pas vous mèneront vers l'incroyable librairie ancienne Denis, à la rencontre de ces deux hommes passionnants et passionnés qui seront ravis de vous faire découvrir leur univers. Suite à l'anecdote de Monsieur Bretel, j'ai rencontré Madame Sacré pour qu'elle nous parle de son livre 316, L'ultime secret, et de ce fameux chapitre dédié à la librairie ancienne Denis. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Françoise Sacré. Merci Marie-Françoise.
Merci, avec plaisir.
Pour qu'elle nous parle de son livre 316, L'ultime secret. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est 316, L'ultime secret?
Alors, 316, c'est la date de naissance de Saint-Martin de Tours, ou de Martin de Tours, hein, parce que, en fait, le livre ne prend pas parti entre les deux personnages. Et l'ultime secret, eh bien, ce nom-là, c'est mon éditeur, qui est l'école d'édition Esten de Tours, qui l'a trouvé, voilà. Donc, l'ultime secret, parce qu'effectivement, le livre français assez palpitant jusqu'à la fin, jusqu'à un secret qui sera ou ne sera pas levé.
Pourquoi avoir choisi la librairie Ancienne Denis pour la mettre dans votre livre ?
Oh, ben, c'est-à-dire que ça fait partie du travail d'auteur, de création, voilà, on part avec une idée, étant donné la densité de ce livre, les idées, elles sont nombreuses, donc on les façonne, on invente une histoire sur le... Enfin, c'est un gros travail d'imagination, et puis, au fur et à mesure que les jours passe, on croise des gens, etc. Parce que c'est vraiment une aventure humaine, donc faut imaginer que mon cerveau travaille pendant plusieurs mois et que parallèlement, bah, j'ai une vie normale comme tout le monde, je rencontre des gens, etc. Et il me manquait quelque chose, j'avais l'essentiel de mon livre, enfin l'essentiel, on sait jamais si on a l'essentiel, mais il me manquait un fait qui relançait l'intrigue et qui me permettait de mettre des choses assez invraisemblables quand même, en les rendre invraisemblables. Et c'est là que un ami m'a parlé de la librairie Denis et je me suis empressée de pousser la porte.
Marie-Françoise, est-ce que vous pouvez nous faire le plaisir de lire le passage concernant la librairie Denis, s'il vous plaît ?
La rue de la Sellerie est une rue d'hier. Elle invite au vagabondage entre antiquaires, commerçants d'art, artisans, un chapelier et autres curiosités uniques au monde. Éloi s'arrête au numéro 50. Une devanture en bois, bleu ciel. Deux vitrines au-dessus desquelles des grilles en croisillon sont suspendues, légèrement baissées, en clin d'œil, avisant le passant que, s'il veut entrer, c'est maintenant. L'enseigne jaune pâle reste discrète. Sur le fronton, on lit, en lettres gothiques, « Librairie Denis », complétée par « Librairie ancienne », pour ceux qui auraient un doute. Le décor est posé, la porte déjà ouverte. Il ne reste qu'à la franchir. Premier pas sur un plancher grinçant, qui parle du passé. C'est la bascule dans le temps. Un bain de jouvence. Dans un parfum de cire, 50 mètres carrés explosent d'étagères bondées de livres jusqu'au plafond, sur les trois murs et à hauteur d'homme, dans la travée du milieu. Une palette de couleurs que des tableaux disparates et des gravures enjolives, parfois droits, parfois souvent en biais, accrochés de ci, de là, dans un apparent désordre. Un festival de vieux livres. Un délice, un trésor, une mémoire vivante. Ici, dès le franchissement de la porte, les livres chantent comme des envolées de jazz. Dans cet univers de mots qui ne demandent qu'à être lâchés, un libraire, longiligne, d'une discrétion de marque-page, front haut, lunettes cerclées, accueille les nouveaux arrivants d'un bonjour aimable qu'une timide réserve bride un peu. Il a la délicatesse rare de se placer à l'arrière-plan des livres. « Nous travaillons sur Saint-Martin, » dit Lise. « Sa vie ? La construction de la dernière basilique. Avez-vous quelque chose ?» La question aurait pu être plus directe. « Où est le manteau de Saint-Martin ? » Trop simple, impossible à poser. Et réponse improbable.
Merci beaucoup Marie-Françoise.
Avec plaisir, vraiment.
Merci pour votre écoute. Et on se dit au mois prochain pour une nouvelle librairie. À bientôt !